19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. J'entends les reins tonnants de ce peuple barbare. Quelle fête ou quel crime est-ce donc qu'il prépare? Depuis 1736 et cette fameuse phrase de Voltaire, les temps barbares ou des reins ont été supplantés par l'âge du bronze. L'âge du bronze qui vit la création de Mycène, des pyramides de Gizeh, celle du palais de Knossos ou le règne de Ramsès II. L'âge du bronze s'avère pourtant une période oubliée, reléguée de la grande histoire et de l'archéologie. Un âge qui, pour autant, pourrait être une des premières révolutions industrielles de l'humanité. Pour entrevoir les avancées sociales de cette période, deux chercheurs de l'INRAP, Cyril Marcigny, Chris-Cécile Vautrin, bonsoir.
Bonsoir.
Actuellement un des meilleurs spécialistes de cette période en France, Cyril Marcigny, votre terrain de recherche est la Normandie, en lien avec les îles britanniques et l'Europe du Nord. Des découvertes, vous en avez faites très régulièrement, puisque vous avez voici peu sorti de terre un trésor de bronze, à Port-en-Bessin. Chris-Cécile Vautrin, vous êtes ce soir avec nous pour une très belle découverte, de celles qui font frémir les médias, avides de scoop, et j'espère surtout rêver auditrices et auditeurs. La découverte d'une nouvelle tombe à char de période gauloise, donc postérieure à l'âge du bronze, et dont nous reparlerons en fin d'émission. Cyril Marcigny, entre 2300 et 800 avant notre ère, peut-on parler d'une accélération de l'histoire ?
Oui, en fait, on a l'impression sur l'ensemble de la période couverte par l'âge du bronze, donc fin 3e millénaire jusqu'au 1er millénaire, qu'on a un tempo beaucoup plus saccadé du temps. D'abord très lent quand même, dans un premier temps, entre 2300 et 2000. Mais peu à peu, les données sont nombreuses. Et donc, on a l'impression que la société bouge très vite au cours du bronze moyen, encore plus au cours du bronze final. Et ça annonce ce qui va suivre après, durant l'âge du fer.
Bronze moyen, 1600 avant notre ère.
C'est ça. Voilà.
Et le bronze récent ?
On est à partir de 1100 avant notre ère.
Les archéologues pensent de plus en plus que les sociétés agricoles du Néolithique n'étaient pas des sociétés égalitaires. Avec l'âge du bronze, s'implanterait un nouvel ordre social ?
Alors, très clairement, d'après les données qu'on a un peu partout en Europe, on a vraiment quelque chose qui se passe autour de 2000-1900 avant notre ère, où on a des élites qui prennent la main sur le paysage un peu partout. Et pour la région qui m'intéresse, moi, l'ouest de la France, c'est très clair en Bretagne et en Normandie. On a des élites qui sont présentes et sûrement une très forte stratification sociale.
C'est là où on parle de petits princes bretons d'Armorique. C'est bien ça, non? Qui sont enterrés sous des tumulus?
Exactement, ce sont les termes de Jacques Brière à partir des tumulus armoricains. Mais le terme est bon, quoi. On peut le garder. Hein. On a vraiment une aristocratie visiblement assez forte qui se met en place à cette époque.
Comment caractériser ces sociétés et cette stratification sociale? En évoquant peut-être des chefferies?
Ouais, le modèle de la chefferie se tient. Il faut imaginer des tout petits îlots de territoire qui sont aux mains d'une hiérarchie assez forte. Ces fameux petits princes que vous évoquiez, c'est pas des territoires énormes. C'est vraiment une mosaïque de petits territoires les uns à côté des autres qui constituent ainsi des plus grandes entités. Mais le terme de chefferie, à mon avis, il est bon pour cette période-là. Quoi.
Je crois que Patrice Boin, qui est professeur à la Sorbonne, avait justement modélisé ces constructions politiques.
Oui, Patrice Boin a fait un gros travail là-dessus. Il a travaillé d'ailleurs précisément sur cette période entre 2000 et 1700 avant notre ère, en proposant un modèle qui reposait justement uniquement sur les données funéraires, sur les tumulus, leur masse. Et il a proposé comme ça un découpage pour la partie armoricaine de la France, vraiment la partie bretonne, quoi.
Les territoires de cette période permettent-ils de percevoir les paysages et par là même les interactions entre les hommes et le milieu ?
Alors en fait, ça c'est la nouveauté depuis les années 2005-2010, avec le développement de l'archéologie préventive en France. On a des nouvelles données qui sont apparues et qui ont pu être étudiées. On a parlé funéraire jusqu'à présent, c'était essentiellement les données funéraires qui étaient découvertes anciennement. Et avec l'archéologie préventive, on a le paysage qui commence à être lu et appréhendé par les archéologues. En particulier, tout ce qu'il constitue, c'est-à-dire les parcellaires, les champs, les voiries. Et on se rend compte qu'on a un paysage qui est largement anthropisé à cette époque-là, même très largement anthropisé, et qui est même verrouillé par ces élites. Les vieux modèles qui faisaient reposer le pouvoir de ces petits princes sur le métaux sur le bronze. Ils sont peut-être à revoir un petit peu au prisme d'une nouvelle lecture par rapport justement au paysage, au milieu agricole, etc. Parce que ces gens-là ne sont pas implantés n'importe où, ils sont sur les très très bonnes terres agricoles.
Ces paysages, ils sont encore visibles ?
Alors ces paysages, ils sont encore visibles dans certaines régions d'Europe, les Dartmoor. Chez nous, malheureusement, l'agriculture extensive du 19e siècle a complètement effacé ces traces du paysage, à part dans certains secteurs, je pense à la Hague par exemple, ou dans certains secteurs des Monts d'Arrée en Bretagne. Mais sinon, quasiment tout est gommé et tout se découvre au fur et à mesure des fouilles, tout simplement.
Vous me citiez une région, c'est en Angleterre ?
Oui, le Dartmoor, c'est le sud de l'Angleterre.
Et là, c'est préservé ?
Là, c'est préservé dans le paysage, pour une raison simple, c'est qu'on a des tourbes qui vont s'implanter sur l'ensemble de ce territoire, et le territoire va appartenir à la royauté britannique et ne va plus être utilisé très rapidement. Et donc, on a un paysage fossilisé qu'on peut découvrir. Hein, si les gens sont curieux, ils peuvent aller sur Google Earth. Hein, vous visez les Dartmoor et vous verrez ainsi un paysage de l'âge du bronze avec ses champs, ses chemins. Même les maisons circulaires sont visibles sur les photos aériennes.
Justement, qu'est-ce qui ponctue ce paysage ? Quels sont les aménagements ?
Alors, les aménagements les plus marquants du territoire, toujours pareil, hein, je parle toujours au début du deuxième millénaire, ce sont ces fameux parcellaires. En fait, ces élites vont s'accaparer le territoire, quelque chose qu'on sent pas du tout pour le néolithique. On n'a pas ce sentiment-là avec les trouvailles qu'on peut faire en matière d'archéologie. Là, on a des fossés qui commencent à couvrir de larges espaces, hein, plusieurs hectares, hein, et des fossés surtout très profonds, 1,80 m de profondeur, 2 mètres de profondeur par rapport au paysage actuel. Ce qui étonne, parce que pour du parcellaire, ça sert à rien de creuser aussi profondément, mais si on le voit sur un angle social, ça peut être une marque justement d'appropriation de l'espace. Hein. Les élites qui se mettent en place durant cette période vont mettre la main d'œuvre nécessaire pour creuser profondément, pour scarifier le sol, hein, très clairement, hein, et ainsi s'approprier le terrain en disant voilà, j'ai mis les moyens pour avoir ce territoire-là, et il est à moi.
On a des chemins ?
On a des chemins. Chris, Cécile, d'ailleurs, on a fouillé il y a quelques années à Hérouville-Lettes. On a des chemins. Certains même sont encore utilisés actuellement. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Un des chemins fouillés par Chris, Cécile, sur la commune d'Hérouville-Lettes, à côté de Caen, a une fondation durant l'âge du bronze, et c'est un chemin qui est encore utilisé à l'actuel. Sur certains tronçons, voilà, c'est aussi un chemin important, c'est un chemin qui permet de rejoindre le littoral, hein, c'est pas n'importe quel chemin. Mais voilà, on a un paysage qui se fonde au deuxième millénaire et qui perdure quasiment jusqu'à nos jours.
Puisque l'on traite de l'Europe du Nord et des îles britanniques, on a bien sûr dans ces régions-là des chemins de planches que l'on n'a absolument pas en France.
On n'en a pas en France, entre pas en Normandie, mais il y en a dans le nord de la France. Il y en a eu de fouillés il y a quelques années par Yvan Pro, au plan Anquan. Donc on a ces chemins de planches. Hein. C'est un défaut de fouille, simplement, c'est parce que les archéologues français travaillent peu dans les milieux tourbeux, enfin voilà, dans les zones humides. Mais si on commençait à envisager des fouilles qui seraient du coup des fouilles programmées et pas des fouilles préventives sur ces zones humides, je pense qu'on trouverait aussi des chemins de planches chez nous.
Alors comment se présentent ces chemins de planches ?
Alors il y a plusieurs systèmes possibles. Les plus complexes, hein, associent des planches posées à plat, posées sur des pieux. D'autres sont très simples, juste des planches posées entre croisées. Hein. Il y a même des faisceaux de branchage parfois qui constituent ainsi des cheminements. Donc il y a à peu près tous les modèles qui existent. L'idée, c'est de pouvoir traverser justement ces zones humides.
Qu'en est-il de la côte, puisque la côte normande est importante en archéologie ?
La côte normande est importante pour toutes les périodes. Voilà, c'est un milieu important. Pour ce qui est de l'âge du bronze, alors la côte normande, elle a forcément un petit peu diminué depuis l'âge du bronze. Il y a des éléments qui nous manquent. Mais en tout cas, c'est une côte qui est très attractive puisque la plupart des sites riches, entre guillemets, de l'âge du bronze, ceux qui associent des plus grands parcellaires, les enclos sont situés plutôt sur la frange littorale. Plus on va vers l'intérieur des terres, moins on a de sites de cette nature-là. Donc très clairement, cette frange littorale, et ça a l'air d'être pareil en Bretagne avec les quelques découvertes qu'ont fait mon collègue Stéphane Blanchet, hein, voilà, montre qu'on a vraiment une attraction forte du littoral durant cette période.
Je crois qu'on a découvert une structure de pêche, en Normandie, liée justement à cette côte, ouais. À Saint-Jean-le-Thomas, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Donc c'est une découverte qui est un peu ancienne, hein. C'est une découverte qui a été faite dans les années 70 par Monsieur Lomer, qui était retombée un peu dans l'oubli, parce que voilà, personne ne s'était intéressé à ce milieu-là. Et il y a une fouille qui a été entreprise à nouveau par Cyril Billard, en association avec Vincent Bernard, pour les aspects dendrochronologiques, hein, et qui a permis de redécouvrir complètement une pêcherie, un système avec même plusieurs pêcheries, hein, à Saint-Jean-le-Thomas, on est juste à côté du Mont-Saint-Michel, hein. À cette période, il y a les parcellaires, on va creuser profondément, on va scarifier le sol sur terre, mais en mer, on va aussi s'approprier le terrain et on va créer des dispositifs très vastes, des grandes pêcheries avec du bois, du clayonnage. Donc on a à peu près le même processus qui s'opère dans tous les milieux à la même période.
Comment marche le principe ? L'eau monte à la marée, le poisson rentre et il est capturé à la sortie ?
Ouais, en gros, c'est ça le système. Celle de Saint-Jean-le-Thomas est un peu plus complexe et si j'en parle, ça va prendre de longues heures. C'est un système compliqué avec des choses qui viennent à la fois de la terre et de la mer. Mais sinon, le principe, normalement, est simple. On fait un V et on piège le poisson à l'intérieur quand la marée redescend.
Cyril Marcini, avez-vous vu cet article qui vient de paraître dans Science sur l'exploitation des terres, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale?
Oui, c'est un modèle qui est assez intéressant, qui revient aussi sur des idées préconçues qu'on peut avoir. Hein. On imagine une emprise sur les milieux agricoles récents. Cette emprise, elle n'est pas si récente que ça. Hein. Elle plonge justement ses racines dans les premiers temps de la proto-histoire. Probablement dès le néolithique, même si on le sent un peu moins. Mais en tout cas, très clairement, dès l'âge du bronze. Hein. Donc, on est vraiment sur un système qui est enraciné depuis très très longtemps.
C'est-à-dire que le fameux Anthropocène, cette période où l'homme détermine le climat, n'est pas la révolution industrielle du XVIIIe siècle, mais puise bien avant.
C'est ça, on l'a accéléré durant les derniers siècles. Hein, mais l'Anthropocène, à mon avis, on peut le placer, peut-être pas dès le début de l'Holocène, mais en tout cas au moins dès l'âge du bronze et pourquoi pas un tout petit peu avant, quoi.
On voit d'ailleurs le pic de cette évolution mondiale est assez doux, ça n'arrête pas d'augmenter, mais il n'y a pas de montée d'un seul coup.
C'est ça, c'est un élément fort de l'article. C'est montrer que c'est quelque chose qui se met en place et qui évolue tout doucement, même si voilà, il y a une petite accélération sur la fin de la période, mais ces choses-là sont anciennes.
Cyril Marcini, vous avez une chute des pollens durant votre âge du bronze, notamment le long du littoral. Est-ce la preuve de l'intervention humaine ?
Oui, très clairement. En tout cas, pour les pollens d'arbres, on a très clairement une ouverture du milieu beaucoup plus importante qu'au néolithique, hein, durant l'âge du bronze, et en particulier durant les dernières phases de l'âge du bronze.
Cyril Marcini, d'étonnants dépôts d'objets caractérisent aussi cet âge du bronze. Nous voici devant l'émergence de ce que j'appellerais des trésors.
Oui, le terme trésor est...
Ça gêne toujours les archéologues.
Est un peu simpliste, mais ça relève de ça quand même, puisque voilà, on capte de la masse monétaire, hein, de la richesse hein, qu'on va mettre en terre pour des raisons qui sont encore un peu obscures mais qui commencent à s'éclaircir de plus en plus. Et plus on va avancer dans l'âge du bronze et plus ces masses de métaux seront importantes. C'est intéressant d'ailleurs quand on parle de l'emprise du milieu puisqu'en fait les chercheurs bretons, en particulier Loïc Godin dans sa thèse, a montré que plus on avait de production d'objets en bronze et plus les pollens d'arbres disparaissaient. Donc faut pas imaginer non plus un défrichement uniquement lié au milieu agricole. Il y a peut-être aussi
de la
métallurgie en abondance qui fait qu'on consomme beaucoup de bois, en particulier au cours du premier millénaire.
Alors prenons un trésor pour voir exactement de quoi il s'agit. Celui de la chapelle du bois des Faux est-il un bon exemple ?
Oui, c'est un bon exemple. Peut-être pas pour le terme trésor, mais en tout cas pour le terme dépôt, ça marche bien. Et c'est un dépôt intéressant puisqu'en fait on a des haches qui sont toutes du même modèle, qui n'ont pas servi, qui sont pas rentrées dans le flux des outils de l'époque. Hein. C'est de la production de haches type normand, forcément, on est en Normandie, fabriquées et mis en terre directement sans traitement particulier, si ce n'est d'avoir cassé le cône de coulée. Et en plus, on a des haches qui sont qui appartiennent du même moule. Donc, on a de la production en série pour de la mise en terre. Voilà. Après, toujours pareil, l'idée d'enfouir des dépôts, il y a plein de choses qui peuvent être mises derrière.
L'âge du bronze, c'est la création du multiple, de la série. C'est peut-être ça le caractère important de cet âge du bronze.
Complètement, ça renvoie au titre de l'émission, Révolution industrielle, même s'il a forcément un peu polémique et un peu fort. Mais très clairement, au cours du bronze moyen, durant la deuxième partie du bronze moyen, autour de 1500 jusqu'à 1300, hein, on va avoir une production métallurgique très 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 importante qui revêt sûrement plusieurs choses. Hein. Il y a de la consommation dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi ces fameux dépôts enterrés. Enfin voilà, il y a différentes choses derrière.
Cyril Marcini, vous me parliez d'un trésor, mais à lire attentivement, je me suis aperçu que à la chapelle du bois, il y avait trois trésors.
Ouais, ça c'est la... C'est un élément un peu important des travaux faits ces dernières années. On s'est rendu compte que les dépôts étaient rarement isolés. Voilà, on avait, lorsqu'on s'attachait à étudier ce qui se passe autour d'un dépôt, on trouvait d'autres dépôts. Voilà. Alors là encore, on peut mettre plein de choses derrière. Est-ce que c'est des sites sanctuaires où on va enterrer des dépôts régulièrement ? Est-ce que c'est des endroits particuliers du paysage qui n'ont rien à voir avec du religieux où on enterre aussi des dépôts ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut cacher ses trésors toujours au même endroit ? Enfin, là, les hypothèses sont aussi nombreuses que les archéologues.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
En tout cas, Cyril Marcini, vous voyez dans ce dépôt des marquages symboliques dans le paysage.
Oui. On est plusieurs chercheurs en Europe actuellement à commencer à essayer de comprendre les dépôts à large échelle. Là aussi, c'est pas quelque chose de très récent. Jean-François Pinin avait aussi fait le même type de travail dans l'Est de la France. Mais lorsqu'on lance des programmes et qu'on recense tous les dépôts dans un secteur donné, on l'a fait dans le Val-de-Serre, par exemple, en Normandie, on se rend compte qu'il y a plusieurs dépôts. Et lorsqu'on croise les informations archéologiques, qu'on y met du paléo-environnement, qu'on y met des découvertes archéologiques, habitats, parcellaires, etc., on entrevoit des choses qui peuvent correspondre à des limites territoriales. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement, voir si ces dépôts sont pas des limites territoriales où on va, comme ça, à des moments donnés, rassembler sa chefferie, justement, pour rappeler le terme qu'on évoquait au début, autour de l'enfouissement d'un dépôt et en faire une sorte de géosymbole, un marqueur, pour dire, voilà, ici, on est en limite de notre territoire et on est prêt à y sacrifier tant de kilos de bronze.
L'âge du bronze n'est-il pas surtout caractérisé par de nouveaux réseaux d'échanges?
C'est un autre élément de l'âge du bronze. C'est un élément moteur, surtout au début de l'âge du bronze, en rupture totale avec le modèle néolithique et qui sera en rupture aussi totale avec le modèle de l'âge du fer. À partir du moment où il faut faire du bronze, il faut trouver du cuivre et de l'étain. Donc c'est très simple. Il faut tisser des réseaux entre les différents gisements. Et là, on travaille plus du tout à l'échelle locale. Le silex, on le trouve à l'échelle locale. Le fer, on peut assez facilement le trouver à l'échelle locale. Pour l'âge du bronze, on tisse des réseaux à l'échelle de l'Europe.
Le cuivre, l'étain, ça vient d'où?
Alors, il y a différents gisements en Europe. Pour ce qui est de la Normandie, le territoire qui m'intéresse, on se retourne directement vers l'Angleterre, un tout petit peu vers la Bretagne, probablement. Mais en tout cas, c'est surtout vers l'Angleterre, c'est de là que viennent les matériaux, très probablement.
Donc, on serait sur la naissance d'un véritable trafic maritime?
On est sur la naissance d'un trafic maritime et on est surtout sur la naissance de l'Europe, où les pays, une grande partie des pays européens vont être interconnectés pour pouvoir justement obtenir ces matériaux.
Et vous voyez la circulation de ces biens entre la Normandie, le nord de la France, la Hollande, l'Angleterre, mais aussi l'Irlande?
Alors, il y a des travaux qui commencent à être faits sur les matériaux pour essayer de caractériser les différents cuivres. C'est encore balbutiant, mais il y a des pistes qui apparaissent très clairement. Après, on peut pister ces réseaux autrement avec le mobilier. Et des haches de type normande, on en trouve en Angleterre, par exemple, on en trouve en Belgique. Et inversement, on trouve des modèles anglais en Normandie ou en Bretagne. Donc voilà, les objets, en tout cas, circulent. Et au niveau culturel, on a quand même des très fortes similitudes dans les corpus céramiques, par exemple. Donc tout ça semble assez proche à cette échelle-là.
Une découverte en pleine mer laisse supposer un naufrage, celle de Sotteville-sur-Mer.
Oui, à Sotteville-sur-Mer, c'est un chalut qui a ramené deux torques en or du bronze final. Donc c'est pas une découverte isolée. On a d'autres découvertes en France. Il y a une épée complète, par exemple, à Aumonville. Il y en a d'autres en Bretagne. Là encore, c'est un défaut de la recherche française. En Angleterre, il y a un gros travail qui a été fait là-dessus par Stuart Needham, qui a été recensé tout ce qui a été remonté en bateau. Et on se rend compte qu'on a des points comme ça en mer qui sont assez nombreux. C'est probablement pareil chez nous. Et oui, l'idée, très clairement, c'est d'aller après rechercher les épaves sur ce site-là pour voir si on peut trouver quelque chose, avec bien sûr toutes les limites de la méthode. Voilà, on est sur des régions où c'est difficile d'aller faire de la prospection en mer. Et les chaluts, le problème, c'est qu'ils raflent des objets sur de très très longues distances. Et localiser précisément l'épave derrière, c'est très compliqué.
Les années 1600 avant notre ère seraient un boom économique avec le remplacement des anciennes élites pour une autre et le tout dans une société qui s'homogénéise.
On a très clairement un effacement des élites autour de 1600. Les fameux tumulus qu'on évoquait en début d'émission disparaissent. Ces élites sont plus visibles, en tout cas pour les archéologues. Peut-être qu'ils sont encore là, mais en tout cas, on n'a plus ces dépôts ostentatoires dans les tombes. Et on a l'impression, lorsqu'on prend pareil l'ensemble des données, qu'on a une société un peu plus où la démocratie, pas la démocratie, mais la stratification sociale s'est tassée, où les gens semblent à peu près égaux. C'est des termes qu'il faut manier avec précaution. Mais on a des fermes qui parsèment le paysage, qui, lorsqu'elles sont étudiées dans le détail, montrent à peu près les mêmes éléments de ferme en ferme. L'ensemble est encore noyé dans le parcellaire qui a été créé anciennement. Donc on a l'impression que les parcellaires du bronze ancien, créés par ces fameuses élites, sont réutilisés par des fermiers au cours du bronze moyen, sans que ces fermiers du bronze moyen réinvestissent sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a très très peu de fossés qui sont creusés par ces gens du bronze moyen.
Ils viennent bronze se moyen, réinstaller. Donc 1600 avant notre ère.
Autour de 1600-1500 avant notre ère. Donc ces gens-là viennent se réinstaller dans un réseau existant, l'entretiennent très probablement, mais vont pas fonder de nouveaux territoires.
En tout cas, des troubles semblent émerger vers 1150 avant notre ère, avec la naissance de nouvelles fortifications comme à La Hague. Et j'ai souvenir que vous-même, vous avez trouvé un site d'affrontement.
Ouais. Le site que j'ai fouillé est un peu plus ancien, il date du 3e millénaire. Mais oui, à partir de 1300 et de 1200 à 1100, on a l'impression qu'il y a vraiment des conflits qui sont de plus en plus présents à l'échelle, pareil, de l'Europe. Hein, la Normandie fait pas exception. Hein. Et on a comme ça des scènes de bataille, hein, comme celle de Tollensee en Allemagne, par exemple. Mais on a aussi de l'armement qui circule en très grande quantité, des épées, des casques, des cnémides, des cuirasses. Donc on rentre dans une nouvelle dynamique. Et l'habitat, d'ailleurs, qui se met en place au bronze moyen, vers 1600, s'efface peu à peu du paysage.
Revenons à ce que j'annonçais en début d'émission, la découverte d'une nouvelle tombe à char, plus récente bien sûr donc que l'âge du bronze. Chris Cécile Benard-Vautrin, vous êtes archéologue et l'archéologue en charge de cette fouille. Une fouille préalable à une nouvelle prison?
Oui, tout à fait. Ça se situe sur la commune d'If, qui est sur la périphérie caennaise, qui, oui, sera dédié à un futur centre pénitentiaire pour remplacer l'ancienne prison de Caen.
Et alors, vous avez fouillé ce territoire d'If sur des hectares et des hectares?
Le territoire d'If, vous parlez donc effectivement de ce que je fouille actuellement, le futur prison, mais aussi la ZAC Objectif Sud qui se situe juste à côté, où on a eu l'occasion depuis les années 2000 de fouiller sur effectivement plusieurs hectares et des hectares, ce qui nous permet d'avoir une vision sur un territoire depuis la fin de l'âge du bronze jusqu'au début de l'Antiquité.
Quelle est la datation de cette tombe?
La tombe en question se place, ce qu'on appelle nous les archéologues, l'Athènes ancienne, et grosso modo on peut le placer autour du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ.
On va l'appeler comment? La tombe d'If?
On peut l'appeler la tombe d'If, oui, il n'y a pas de souci. La tombe à char d'If, parce que nous avons plusieurs tombes. Parce que la tombe en question, en fait, elle est surtout marquée par un monument. Donc on a un monument quadrangulaire qui marque l'emplacement de ces tombes par un tertre avec un fossé tout autour. Et au centre, donc, il y a cette fameuse tombe. Donc, mais tout autour, cette tombe a figé un autre groupe, donc, et a donné l'amorce à l'installation d'un groupe funéraire d'une vingtaine de tombes tout autour.
C'est-à-dire, à vous écouter, ce que je comprends, c'est que la tombe serait une sorte de tombe première, la tombe créatrice, fondatrice, et que tout autour viendrait s'agréger des tombes adventices.
Tout à fait, oui, de la communauté qui vivait donc sur l'habitat même, parce que ce que je disais tout à l'heure, nous avons donc les tombes de l'aspect funéraire, mais elle est associée directement à l'habitat. Donc un habitat qui s'installe, je soupçonne, après les premières données que j'ai actuellement de la fouille, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui va se développer tout au long de l'âge du fer jusqu'à la venue de Jules César.
Le corps reposait sur le char?
Le corps reposait donc la tombe, effectivement, nous avons les traces des roues, donc il y a les cerclages en fer. Malheureusement, le bois du char est décomposé, nous n'avons plus de traces de bois, mais on a le corps qui était déposé dessus, donc du corps il nous reste les fémurs, une partie du crâne, donc ce qui nous permet effectivement de connaître la position des défunts. Et en avant du char, on a des restes de ce qui pourrait correspondre à l'attelage. On a le mort à cheval avec des éléments qui pourraient correspondre à l'attelage.
Les morts de chevaux, ça ce n'est pas très fréquent.
Là, c'est une question complexe parce qu'en fait, le phénomène de tombe à char, c'est quelque chose qui commence à l'Athènes ancienne, donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on a une perduration, disons, jusqu'au 3e siècle. Et selon les types de tombes, par exemple la tombe de Orval, nous avons le dépôt symbolique de deux crânes de chevaux, ce qu'on n'a pas à If. Mais je répète quand même, c'est que la tombe à If, elle est très mal conservée, elle est plutôt arasée. Donc les ossements sont très mal conservés, donc il n'est pas exclu qu'on aurait pu avoir le même symbolique.
Avez-vous d'ailleurs des objets richement décorés, des clavettes de roues par exemple, comme on a d'ailleurs trouvé sur la tombe d'Orval, qui est très contemporaine de celle de If?
Nous sommes sur une tombe quand même plus simple. Donc je dirais que c'est plutôt une tombe d'un homme riche qui a pu se permettre de s'accorder ce type de funérailles, donc avec le char qui l'accompagnait dans sa tombe. Mais nous n'avons pas les éléments comme on a à Orval. Ceci dit, la personne en question, homme ou femme, parce que vu les restes que nous avons, il est difficile de s'exprimer pour l'instant si c'est un homme ou une femme. Mais l'homme ou la femme en question a pu quand même se faire doter par deux parures, un bracelet en lignite et un bracelet en verre qui sont quand même deux objets qui témoignent d'une importation de produits venant d'ailleurs.
Alors justement, la lignite, c'est un matériau très particulier, c'est une sorte de pierre de tourbe. Elle vient d'où celle-là ?
C'est un bois fossilisé qui vient du sud de l'Angleterre.
Le char a-t-il été démonté avant de rentrer dans la tombe ?
Non, il a dû être complet. C'est un char donc avec la particularité que l'emplacement des roues sont placées dans des surcreusements, donc le char est dans son intégralité déposé dans la tombe.
Alors vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme, vous le saurez peut-être d'ailleurs jamais. En revanche, il avait une épée ou pas ?
Non, ce n'est pas un homme doté d'une épée. Ce qui me fait penser que c'est une tombe d'un fermier, un agriculteur, qui s'est enrichi donc avec l'agriculture, donc culture des céréales, surtout dans la plaine de Caen. Je signale quand même que la plaine de Caen, ce sont des grands plateaux de terre fertile. Donc on est en présence de fermiers qui ont une certaine richesse et qui peuvent se procurer donc des produits d'importation, comme je disais tout à l'heure. Et là, à l'occurrence d'un homme qui s'est accordé son entourage d'une tombe d'une certaine richesse. Mais nous sommes quand même en présence d'un homme plutôt, une tombe qu'on ne peut pas appeler princier.
Vous me dites, c'est un paysan, mais le char à deux roues, c'est en général un char de guerre ?
Pas forcément. Le char est aussi employé dans la vie quotidienne. Voilà. Donc les réseaux de chemins qu'on peut mettre en évidence, nous avons les traces de chars, les traces de passage de roues qui indiquent que le char est tout à fait utilisé aussi dans la vie quotidienne des agriculteurs.
Et votre tombe n'a pas été pillée ?
Non, elle n'a pas été pillée. Non.
Ça, c'est formidable. Parce qu'en général, elles le sont souvent dès l'époque gauloise.
Non, elle n'a pas été pillée.
L'archéologue est un scientifique qui possède une forte distanciation face à son objet d'étude. Cela n'empêche pas des émotions, Chris-Cécile Vautrin ?
Tout à fait. C'est une tombe quand même qui est extraordinaire. C'est une première tombe, une première découverte pour le Calvados. Donc après la découverte d'Orval, ce sont des gens découverts qui nous retiennent jusqu'à 7h30 du soir pour finir la fouille et de l'arroser avec un petit verre après.
Ça y est, vous venez de finir la fouille ?
Oui, elle est terminée, cette fouille. Enfin, la fouille de la tombe, je précise, pas la fouille de Yves.
Cyril Marcini, Chris-Cécile Vautrin, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture évoquera d'autres lieux, d'autres temps.